Les séminaires du Collège de France.
Je suis très heureux que cette semaine nous avons Tristan Sterrin qui a accepté de nous parler de son projet remarquable de calcul du cinquième nombre Busy Beaver. Il va expliquer ce qu'il sait.
Merci beaucoup pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de vous parler de cette recherche. Merci à toutes et tous d'être venus. Aujourd'hui, on va parler de calculabilité, on va parler de calcul et de cette idée de Busy Beaver, qui est un concept qui a émergé dans les années 60 à peu près. Avant de commencer, je veux remercier les institutions qui ont financé cette recherche, donc pendant mon doctorat en Irlande, l'Union européenne à travers l'ERC et aussi Science Foundation Ireland. Et en France, au travers de ma société programme, le Crédit Impôt Recherche. La France qui a beaucoup contribué à faire en sorte que cette recherche soit possible. Quand on parle de calcul, généralement on peut penser à quelque chose un peu comme ça. Des opérations qu'on apprend à l'école. Et donc, par exemple, si on fait 5 plus 5, c'est égal à... On a un problème. Ce problème, il a un nom, ça s'appelle the halting problem. C'est-à-dire que quand on interagit avec des algorithmes, il y a toujours la possibilité que l'algorithme ne réponde jamais. Soit que ce soit un bug ou que ça ne soit pas possible de donner la réponse dans un temps qu'on trouve raisonnable. Ici, sans lire le code, ça serait impossible de savoir. Le code, il est là. Et donc, si on brose un peu, on se retrouve ici. Et on a trouvé le problème, c'est qu'on a une boucle infinie. Donc ça, c'est vraiment le cas archétypal de pourquoi un programme ne va pas répondre. C'est qu'il ne va jamais quitter ces deux instructions. Vrai, c'est toujours vrai. Et donc, il va boucler pour toujours. Il ne va jamais nous donner le résultat. Ça, comme je suis fainéant, ça aurait été bien que je n'ai pas eu besoin de lire le code pour le voir. Ça aurait été bien qu'il y ait une méthode générale qui puisse juste lire ce code et me dire « Attention, Tristan, ça ne va pas marcher, tu ne vas jamais avoir la réponse. » Et ça, en fait, c'est impossible. Et on le sait depuis que l'informatique existe. Alan Turing, sur cette photo, il a à peu près 18 ans. C'est que quelques années plus tard, quand il en a 24, qu'il va, en un sens, faire l'acte de naissance de l'informatique, où, en plus, pour l'une des premières fois, expliquer ce que ça veut dire que de calculer de manière formelle, il va... nous donner un résultat négatif, nous dire qu'il n'y a aucun algorithme qui est capable d'analyser n'importe quel code pour trouver si celui-ci ne s'arrête ou pas. Ce qui est important, c'est le pour-tout. C'est-à-dire que là, c'était un cas très simple. Même les éditeurs de code modernes seraient capables de voir qu'il y a une boucle infinie while true, c'est simple. Mais le fait est que c'est le cas général qui est dur. Et l'argument de Turing... il tient en quelques lignes. Donc on définit la fonction de l'arrêt qui prend en entrée un algorithme qui va dire 1 s'il s'arrête et 0 sinon. Et cette fonction, elle n'est pas calculable. Donc en plus d'inventer ce que c'est que le calcul, Turing il nous montre des choses qui ne sont pas calculables. Et son argument, il est spectaculaire parce qu'il tient en 6 lignes. Il est là, il nous dit si on avait une fonction pour calculer le problème de l'arrêt, on arriverait à une contradiction en écrivant le code qui est écrit ici. Cette fonction D, elle est contradictoire parce que si un algorithme nous prédisait que D s'arrête, eh bien, D ne s'arrêterait pas. Et s'il nous prédisait que D ne s'arrête pas, ben, elle s'arrête. Donc, cet argument qui utilise un argument d'autoréférence, c'est-à-dire que là, le code est capable de lire son propre code, mais ce n'est pas un problème. Il y a les concepts des quines en informatique où un code peut tout à fait avoir accès à son propre code source. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne dit pas que f-alt n'existe pas. F-alt, elle existe, on l'a définie. Ça nous dit qu'il n'y a aucun algorithme pour la calculer. Le problème, l'argument de Turing, il est génial parce qu'il est très court et il est très élégant, mais en un sens, il ne nous dit pas mais à quel point est-ce que c'est dur d'essayer de répondre au problème de l'arrêt. Et pour ça, on peut se tourner vers les mathématiques, avec notamment l'un des problèmes ouverts les plus vieux, qui date de 1742, ça s'appelle la conjecture de Goldbach, ça nous dit que tout nombre pair plus grand que 2, on peut l'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Donc si on teste, effectivement, 4 c'est 2 plus 2, 6 c'est 3 plus 3, etc. Des fois on a plusieurs solutions, donc on se rend compte déjà que le problème est potentiellement un peu compliqué. Mais ce qu'on peut faire très vite, c'est d'écrire un programme qui va s'arrêter si et seulement si la conjecture est fausse. Donc là, si on regarde à la ligne 7, on commence juste au nombre 4. On a une boucle qui a l'air d'être infinie, après on ne sait pas trop avant de commencer. Cette instruction, elle nous dit juste si un nombre est pair. Et si un nombre est pair, on va tester Goldbar dessus. Pour le tester, il suffit de regarder tous les nombres premiers plus petits. Et si on en trouve un tel que p est premier et n-p est premier, c'est-à-dire que la somme vaut n, alors on renvoie vrai. Et ce programme, il a la propriété qu'il va s'arrêter si et seulement si la conjecture est fausse. Donc ça, c'est un exemple en pratique d'à quel point c'est dur de déterminer le problème de l'arrêt. C'est que si dans votre code, vous vous retrouvez avec une portion qui fait ça, personne depuis D742 n'est capable de vous dire si ce programme s'arrête ou pas. Et vous voyez, ce programme, il n'est pas très long. Il tient seulement en 13 lignes ici. Donc oui, savoir si un programme s'arrête, c'est dur. On l'a vu avec la conjecture de Goldbar. Et en fait, il y a d'autres conjectures fameuses en mathématiques qu'on peut reformer comme ça. L'hypothèse de Riemann en est une. Et plus généralement, en termes techniques, n'importe quelle phrase P01, qui est une des phrases les plus courantes en mathématiques, qui est de la forme pour tout x, phi de x avec phi que vous pouvez vérifier en temps fini avec un ordinateur, vous allez pouvoir le transformer en un problème de l'arrêt. Et donc potentiellement quelque chose de très dur à résoudre si la question était dure elle-même. Donc voilà, déterminer le problème de l'arrêt, c'est dur. Et le talk pourrait s'arrêter ici, si ce n'était pour un mathématicien hongrois qui s'appelle Tibor Rado. Alors, mathématicien, c'est la version courte. La version longue, c'est qu'en 1913, quand il vient de passer son bac, il commence des études d'ingénieur. C'est une mauvaise année pour commencer ses études parce qu'il part au front russe de la Première Guerre mondiale très vite. Et en 1916, il est fait prisonnier dans un camp sibérien. Bon, à l'époque, les goulags, ça n'existe pas encore, mais on peut imaginer que c'est à peu près le même système concentrationnaire. Et pour vous donner une idée, donc là, c'est Budapest. Là, c'est le camp où il est interné. Donc, autrement dit, à l'autre bout du monde, en Sibérie. Et il se passe quelque chose, cependant, c'est qu'il rencontre un mathématicien autrichien qui est aussi prisonnier du camp, qui va lui apprendre des mathématiques. Édouard Dely, il est à peu près 10 ans de plus que lui, donc il a déjà fait de la recherche, et il va le mettre au niveau, il va lui apprendre les mathématiques, on va dire, professionnelles. En 1920, il fuit le camp à pied, donc il va traverser entre 2000 et 3000 km du désert arctique, apparemment aidé par trois Inuits qu'il rencontre en chemin, c'est l'information qu'on trouve dans sa biographie, pour retourner en Hongrie, et il devient mathématicien. Il émigre aux États-Unis et là-bas, très vite, il résout un problème qui était ouvert depuis longtemps, depuis 1760, qui est un problème sur les surfaces des bulles de savon. En 1955, il change de carrière, donc il est passé d'ingénieur civil à mathématicien, il devient informaticien. L'informatique, c'est une science qui est encore très très jeune. Et dans le papier où il définit Busy Beaver, dont on va parler tout à l'heure, il parle d'un cas pratique qui lui a donné l'intuition de ce que c'était que la calculabilité. Il dit qu'il était sur l'autoroute et il demande son chemin pour savoir quand est-ce qu'il doit sortir de l'autoroute. Et quelqu'un de l'autoroute lui dit « il faut prendre la dernière sortie à droite avant le pont ». Le problème, c'est que du point de vue de la personne qui conduit la voiture, ce n'est pas calculable. On ne peut pas savoir quelle est la dernière sortie à droite avant de trouver le pont. Donc, avant de définir techniquement ce que c'est cette invention Busy Beaver de Tibor Rado, je voudrais vous en donner une intuition. On sait ici ce programme, il s'arrête si et seulement si la conjecture est fausse. Ce programme, il fait 270 caractères. Qu'est-ce qui se passe si on se limitait à 100 caractères? Donc j'efface tout. Bon, là, j'ai plus un programme qui est valide, mais on se demande, bon, dans cet espace plus contraint, je peux écrire moins de choses. Donc, est-ce que je peux toujours faire des choses qui sont très compliquées? Si on prend le problème dans l'autre sens, si je ne me mets qu'un seul caractère, la réponse est très facile. Ici, on va pouvoir facilement savoir si les problèmes s'arrêtent ou pas. En particulier, la plupart des problèmes ne seront même pas valides. Donc la question, c'est où est la frontière? À partir de combien d'espace, quelles contraintes de taille, on va avoir un programme pour lequel personne sur la Terre soit capable de dire s'il s'arrête ou pas, comme on a vu avec la conjecture de Goldbach. Le point important ici, c'est que pour répondre à cette question, on est obligé de définir concrètement ce que c'est un programme. À son époque, Python, ça n'existe pas. Et de toute façon, c'est très naturel de former ça dans le modèle naturel, enfin le modèle, l'un des premiers modèles de l'informatique, qui est les machines de Turing. Donc Turing, il nous a expliqué qu'il y avait des fonctions qu'on ne pouvait pas calculer, mais il nous a aussi expliqué, donné un modèle de qu'est-ce que ça veut dire de calculer. C'est un modèle qui est très pratique. Donc ce n'est pas le premier dans l'histoire à penser à cette question, mais on pourrait dire que c'est le premier qui donne vraiment une réponse qui n'est pas vraiment mathématique, mais qui est informatique. C'est-à-dire, on fait des choses en pratique. Et donc, pour comprendre les machines de Turing, le mieux, c'est de les voir à l'œuvre. Donc ici, c'est une machine de Turing à 5 états. C'est la taille de la machine. Vous pouvez penser en analogie au nombre de caractères dans mon programme Python. Et on a un ruban de mémoire qui est infini. Le ruban, il peut contenir que des 0 ou des 1. Et ce programme, il nous dit qu'est-ce qu'on doit faire en fonction de si on lit un 0 ou un 1. On commence dans l'état A, et bon, ici on lit un 0. Donc le programme, il nous dit 1RB, ça veut dire écris un 1, va vers la droite, et lis ta prochaine instruction dans l'état B. Donc on fait ça, on a écrit un 1, on est allé vers la droite, et maintenant on lit ce qui se passe dans l'état B. 1RC, on écrit un 1, on va vers la droite, on saute dans l'état C, 1RD, on continue. 1LA, c'est la première fois qu'on va revenir en arrière. Comme on avait écrit un 1, c'est la première fois qu'on est sur la deuxième colonne et qu'on fait ce qu'on nous dit de faire, parce qu'essentiellement c'est ça un programme, quand on lit un 1. Donc 1LC, on continue. Et là, c'est la première fois qu'on atteint l'état E. Vous voyez, dans l'état E, il y a un truc un peu particulier, il y a ces trois petits traits. Ces trois petits traits disent que si un jour on lit un 0 dans l'état E, il faut s'arrêter. Là, ce n'est pas le cas parce qu'on a lu un 1, mais la question, c'est est-ce que ça arrivera un jour ? Et le problème de l'arrêt étant indécidable, on ne peut pas le savoir a priori en utilisant une technique générale. Juste faisons un petit détour pour voir ce que c'est concrètement une machine de Turing qui ne s'arrête pas. Ça, c'est l'équivalent de la boucle infinie while true dans les machines de Turing. C'est cette petite machine à un état, 1RA. Elle va toujours écrire un 1, aller vers la droite et rester dans l'état A. Comme on a démarré avec que des 0, elle va juste lire des 0 pour toujours. Et donc, elle va drifter comme ça vers la droite infiniment. Et on sait qu'elle ne s'arrêtera jamais. Donc, ici, pour revenir à celle qu'on étudiait avant, la question reste ouverte. Est-ce qu'un jour, elle s'arrêtera ou pas ? Et la réponse la plus simple à cette question, c'est d'essayer d'attendre. Et ici, bon, on peut avoir de la chance parce que 47 176 870 steps later, cette machine s'arrête. Au bout de ce nombre d'étapes, elle lit un 0 dans l'état E et c'est la fin. La calculette a répondu. Si on dézoome un peu pour voir un peu ce qui s'est passé, on peut faire ce qu'on appelle un diagramme espace-temps. Donc en fait, chaque ligne de cette image, c'est un ruban. On va utiliser blanc si c'est 1 et noir si c'est 0. Et dans cette direction-là, on va les mettre les uns après les autres. Et donc ça crée cette image-là sur 20 000 steps. C'est ce qui se passe. On voit ces espèces de cloches qui commencent à apparaître. On a un simulateur qui est capable de faire mieux sur notre site. Et donc si on le regarde et qu'on monte à plus que 20 000 étapes, parce qu'il faut attendre 40 millions pour qu'il se passe quelque chose, voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, la machine continue à faire ces espèces de formes bizarres, et un jour elle s'arrête. Ok. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu frustrant, parce que oui, là on a eu la chance, on a attendu, mais on aurait pu attendre beaucoup plus longtemps, donc in fine, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire de plus rassurante, c'est un raisonnement mathématique. Et c'est là que Tibor Rado invente la fonction BusyBeaver. Donc la fonction BusyBeaver, sa définition technique, c'est le nombre maximum de steps qu'une machine de Turing à n états va pouvoir faire en sachant qu'elle s'arrête si on commence avec un ruban mémoire où il n'y avait que des zéros. Ici, pour rendre les choses pratiques, on vient de montrer que BB5, c'est plus grand que 47 176 870. Et là, c'est juste parce qu'on a cette machine-là qui s'arrête après ce nombre de steps. Cette fonction, elle n'est pas calculable. Et la raison, c'est parce que si vous me donnez une machine à n états, il me suffit d'attendre BBN plus 1 step pour savoir si elle s'arrêtera un jour. Donc, d'une certaine manière, ça me permet de prédire l'avenir en temps fini. Le but initial de Tibor Rado, c'était de présenter, ça c'est le début de son papier de 1962, c'était de présenter des exemples très simples de fonctions non calculables. Bon, je sais qu'il a fallu attendre la slide 56 pour arriver à la définition, mais il n'empêche que cette fonction, elle est beaucoup plus simple que la fonction de l'arrêt, notamment parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à réfléchir à un encoding pour nos programmes. C'est une fonction qui est naturellement définie des entiers vers les entiers. Et donc, on peut tout à fait essayer d'en calculer certaines valeurs. Le fait qu'elle ne soit pas calculable, c'est on sait qu'on ne peut pas calculer toutes les valeurs avec une technique générique, mais bon, après tout, on peut s'amuser à regarder les machines de Turing avec peu d'états, comme 2 ou 3, et voir si on arrive à répondre à la question. Donc ça, c'est fait directement par Rado après sa définition, et il montre que BB2, c'est égal à 6, Et peu après, avec son PhD student, il montre que BB3, c'est égal à 21. BB3 égale 21, ça veut dire que si je vous donne une machine de Turing à 3 états, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous la faites tourner, et si elle dépasse 21 steps, vous savez qu'elle ne s'arrêtera jamais. Ce qui est rigolo, c'est qu'à la même époque, en fait, Rado et Lin, ils sont en compétition, mais sans le savoir, avec Allen Brady, un PhD student qui a entendu parler de cette question, qui est fasciné, et qui veut y répondre. Pour y répondre, il doit faire tourner son programme sur un ordinateur. C'est pas facile en 1960, et donc il se rend dans la ville de Beaverton pour accéder à un ordinateur météorologique qui était l'un des plus puissants à l'époque pour pouvoir répondre à la question. Il confirme le résultat, mais il est arrivé deuxième. Rado et Lin avaient déjà trouvé la réponse. Bon, il ne se décourage pas parce qu'en 1983, c'est lui qui montre la valeur d'après, que BB4 égale 107. Et pour enfoncer le clou, ça veut dire que si je fais tourner une machine de Turing à 4 états, si elle ne s'est pas arrêtée avec plus de 107 steps, on sait qu'elle ne s'arrêtera jamais. Ce qu'il faut voir, c'est que la complexité du problème, elle augmente de manière exponentielle quand on a plus d'états. Pour BB2, il n'y avait que 61 machines analysées. Donc vous pouvez faire ça sur un coin de table et vous convaincre que c'est vrai, c'est pas trop dur. Mais très vite, vous voyez déjà pour BB4, on en est à 858 000. Et déjà, pour les années 80, faire un programme qui est capable d'analyser, de regarder 858 000 machines de Turing, c'est pas trivial. C'est tellement pas trivial qu'à la fin de son article, on a cette phrase qui nous dit que bon, toutes les machines qui restaient, ça veut dire ça, hold out, c'est les machines qu'il n'a pas réussi à prouver, il les a imprimées. Et il s'est convaincu qu'elle ne s'arrêterait jamais. Donc, en un sens, il accepte sa défaite face à la complexité du problème. Il dit, bon, je ne peux pas vous convaincre, il y a trop d'informations, mais moi, je me suis convaincu moi-même, et à un degré suffisant pour annoncer le résultat. Cette explosion combinatoire, est aussi le fait que très vite, on peut potentiellement rencontrer des conjectures qui sont très difficiles. Elle a mené tous les gens qui ont travaillé sur ce problème à n'avoir absolument aucun espoir. C'est-à-dire que Rado, qui avait trouvé S2, en 1963, il nous dit, oui, parce qu'à l'époque, la fonction bébé, elle s'appelle S, il nous dit, en fait, on n'est pas sûr qu'on ne sera jamais capable de connaître S3. Et pour S4, la situation, elle est complètement hopeless. Et Brady va dire la même chose dans son papier où il démontre S4. Il nous dit on n'arrivera jamais à prouver en fait que S5 vaut cette valeur. Et ça, c'est parce que dès le début, on est conscient que on peut potentiellement tomber sur des cas très durs et qu'il faut beaucoup de capacité de calcul. Alors, si on regarde, là, on a regardé les choses depuis le bas, c'est-à-dire on a fait 1, 2, 3, 4, et donc ce sont des valeurs qu'on connaît, mais on peut aussi regarder les choses vers le haut. Et là, conjecture de Goldbach, elle a été encodée dans une machine de Turing à 25 états. Donc connaître BB25, c'est au moins aussi dur que de résoudre la conjecture de Goldbach, parce que si vous avez un argument pour BB25, vous avez en particulier un argument pour cette machine, et si vous attendez BB25 step, vous aurez répondu à la conjecture de Goldbach. Des gens l'ont fait aussi pour l'hypothèse de Riemann, 744 états, et là, c'est quelque chose d'encore pire. Ça, cette ligne-là, sans rentrer trop dans des détails techniques, ça nous dit que BB748, on sait qu'en utilisant les mathématiques modernes, donc la théorie des ensembles, on sait qu'on ne trouvera jamais, que la preuve de la valeur de BB748 n'est pas atteignable. C'est-à-dire, on peut abandonner tout de suite, à moins de vouloir travailler avec des ensembles plus riches. On sait que c'est impossible de prouver cette valeur en utilisant la théorie des ensembles. Et donc, une question naturelle, c'est où est la frontière de ce savoir par rapport au busy beaver values. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré cette machine sur laquelle qu'on a utilisé comme exemple pour voir ce que c'était une machine de Turing. Cette machine, elle a été trouvée en 1989. Et en fait, il y a une histoire derrière, c'est que dès les années 80, il y a des compétitions qui sont organisées dans des universités pour essayer de trouver des machines de Turing à 5 états, puisque là, à 4 états, on avait déjà répondu à la question, qui vont de plus en plus loin. Et ces deux ingénieurs scientifiques allemands, Marxen et Bintrock, qui tombent sur cette machine après avoir utilisé leur ordinateur pendant 2 semaines. Donc à l'époque, ils ont un ordinateur qui fait 1 MHz. Et à force de brute force, ils trouvent par hasard cette machine. Il ne se passe pas grand-chose en termes de nouvelles découvertes d'une machine à 5 états pendant 30 ans. Et donc Scott Aronson, qui est un informaticien très connu, en 2020, dit « bon, bah, ça y est, c'est suffisamment de temps pour émettre une conjecture. » Et donc, il émet qu'en fait, le nombre BB5, c'est exactement égal à ce nombre. Ce n'est pas seulement une borne inférieure. Alors, quel est le problème si on veut essayer d'analyser et de répondre à la question? Le problème, c'est que Si vous voulez prouver que BB5 s'égale à 47 millions, etc., vous devez regarder toutes les machines à 5 états et prouver que soit elles s'arrêtent avant 47 millions de steps, ça c'est pas forcément dur parce qu'on le fait juste tourner sur l'ordinateur, mais plus dur, vous devez sinon prouver qu'elles ne s'arrêtent pas. Ça c'est le nombre de machines de Turing à 5 états, donc il y en a 16 trillions, ça c'est à peu près le nombre de grains de sable sur une plage d'un kilomètre. Et en fait, si on utilise ce que Brady a développé dans sa recherche, il a développé un algorithme, on va dire, très malin pour avoir moins de cas à regarder, il y en a seulement 180 millions. Donc ça, c'est le nombre de neurones dans la tête d'un chat, par exemple. Bon, c'est beaucoup moins que 16 trillions, mais ça reste quand même assez important. Et le challenge, c'est que pour chacune d'entre elles, on va devoir les analyser et montrer qu'elles s'arrêtent avant ce nombre-là, ou prouver qu'elle ne s'arrête jamais. Et si on n'a pas de chance, on va tomber sur un truc comme la conjecture de Goldbach, et donc on ne connaîtra jamais la valeur de BB5. Donc, moi j'entends parler de ce problème dans l'article de Scott Aronson en 2022, et je me dis que face à 180 millions de cas analysés, personne ne peut faire ça tout seul, et donc nécessairement, il faut faire ça de manière collaborative. Donc je crée une plateforme, un site internet si vous voulez, où je présente toutes les machines à analyser, les 180 millions, et j'invite les gens à rejoindre la discussion pour essayer de résoudre le problème. Cette plateforme, ça consiste en un website donc, qui permet un point d'entrée dans le problème, aussi de donner un peu des images visuelles qui peuvent un peu exciter l'imagination des gens que ça intéresse. Et ensuite, un chat, donc Discord, dont je parlerai après, et d'autres, un forum, un wiki, des emails, enfin je veux dire, beaucoup de canaux de communication. C'est pas une recherche qui a été, on va dire, managée, c'est-à-dire que les gens ont fait ce qu'ils voulaient. Personne n'a dit, il faut que toi tu fasses ci, etc. En anglais, je dirais que c'est anthropically driven. On a eu pas mal de visiteurs, donc 50 000 depuis la création, et sur notre chat de communication, il y a à peu près 1500 personnes aujourd'hui, avec 130 000 messages qui ont été échangés dans ces années pour faire la preuve. Il y a à peu près 100 personnes qui contribuent activement à la recherche, et une petite vingtaine dont la contribution a fini dans la preuve finale. Alors, la recherche massivement collaborative, c'est pas complètement nouveau. Et ça a d'ailleurs été, professeur Gowers a un pionnier dans ce domaine en 2009 avec le projet Polymath. Et cette idée qui fait sens, qui est de dire les mathématiques sont généralement peu collaboratives. C'est qu'on fait souvent un papier de mathématiques à 2, à 3, à plus que ça, ça commence à devenir rare. Et donc, avec Internet, ça fait sens d'essayer de faire des maths à plus que 3. J'ai pensé à faire un petit tutoriel de comment faire de la recherche massivement collaborative en utilisant l'expérience de BB Challenge. Et le premier point important, c'est de discuter. Discuter, ça comprend aussi un aspect un peu argumentatif, c'est-à-dire ça peut être parfois un peu controversé, enfin je veux dire avoir une discussion scientifique où les gens ne sont pas d'accord, mais c'est ça qui généralement permet d'avancer sur le sujet. Ce qu'on a utilisé pour discuter, c'est Discord. C'est un système de chat qui est très populaire sur principalement la génération Z. Moi, je ne connaissais pas quand j'ai démarré le projet. C'est une personne qui était au lycée, qui avait fait un summer camp sur Busy Beaver, qui m'a proposé de créer ce chat. Et moi, j'ai dit pourquoi pas. Enfin, c'était bien d'avoir un chat. Et pendant longtemps, j'ai pensé que ça avait peu d'importance quel chat utiliser. On pourrait utiliser, il y a plein d'autres systèmes. Mais je pense que ça a été très important finalement parce que ça a attiré des gens qui naturellement aimaient bien les ordinateurs et ce genre de questions un peu bizarres sur les ordinateurs. Et aussi, le Covid est un moment où cette plateforme a complètement explosé. C'est devenu vraiment une plateforme quasiment générationnelle. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il y a eu des événements politiques au Népal et c'est sur Discord que les gens qui ont renversé le gouvernement ont voté pour le président d'après. Donc ça a attiré une catégorie d'âge et de personnes qui étaient intéressées pour faire ce genre de choses. Alors, quelque chose qui peut sembler être comme un peu un vœu pieux, un peu naïf, mais auquel je crois profondément maintenant, après 2 ans après avoir fait ce projet, c'est de favoriser un environnement bienveillant et inclusif. Donc bienveillant, c'est-à-dire que Bien sûr que souvent, des gens vont dire des choses qui n'ont pas de sens, qui sont fausses, etc. Mais c'est que comme ça qu'on peut avancer. Et c'est en se rendant compte de ces erreurs que les mathématiques avancent. Et inclusif, parce que tout le but d'un projet collaboratif, c'est d'avoir des gens qui ne réfléchissent pas comme vous. Et souvent, si on ne réfléchit pas pareil, on va potentiellement être très différent. Et ici, l'anonymat ou le pseudo-anonymat aide, c'est-à-dire que ça lisse un peu tous les a priori sociaux qu'on peut avoir. Par exemple, beaucoup de gens de ce projet ne sont pas du tout du monde académique, mais ils ont produit une recherche de niveau académique. Et donc, si on s'était rencontrés dans la vie réelle, peut-être qu'on n'aurait jamais même commencé à discuter sur ce sujet à cause de l'a priori que pour être intéressé sur les machines de Turing, il faut faire un master ou des choses comme ça. Et enfin, ne pas avoir peur de l'entropie. C'est-à-dire que 830 000 messages pendant 2 ans, ça veut dire que c'est des gens qui parlent jour et nuit, en plus sur plusieurs continents, donc ça peut faire beaucoup de volume. Mais encore une fois, mon expérience, c'est que c'est ça qui pousse les frontières du savoir sur un sujet où il faut résoudre 180 millions de cas particuliers. Un cas, souvent on me dit, oui, mais tu peux avoir des trolls, c'est-à-dire des gens qui vont venir et détruire le projet en donnant des insultes ou des choses comme ça. Mais la réalité, c'est que ça ne s'est jamais vraiment produit parce que sur un sujet aussi niche, même les trolls les plus avides se lassent très vite. Donc ça n'a pas été un problème. Ensuite, je pense qu'il faut avoir un objectif très précis et un indicateur de progrès. C'est-à-dire, si vous voulez que des gens restent motivés pendant le temps long à avancer sur un problème, ce problème, d'après moi, il ne peut pas être trop flou. Il faut que ça soit très précis. Et dans notre cas, l'indicateur de progrès, c'était le nombre de machines qui restaient à résoudre. Et pour résoudre, je veux dire déterminer si elles s'arrêtent ou pas. Et enfin, quelque chose qui peut être un peu en contradiction avec ce que j'ai dit avant. Ça, c'est pas en contradiction. Avoir un mécanisme de vérification des résultats. Donc ça paraît évident, mais si vous avez 1000 personnes qui font des mathématiques, il faut vérifier ce qu'elles font. Et généralement, les méthodes classiques, elles ne passent pas à l'échelle. C'est-à-dire que le bottleneck dans ce genre de projet, ça va être souvent les gens qui maintiennent le projet, qui doivent lire toutes les preuves et dire ça c'est correct, ça c'est pas correct. Et c'est quelque chose qui potentiellement rend ce genre de projet quasiment impossible, ou au moins à l'époque. Et enfin, voilà, ça c'est le point qui est un peu en contradiction en apparence avec ce que je disais avant, c'est que je pense que c'est important d'avoir une petite barrière à l'entrée. C'est-à-dire que souvent, vous avez des gens qui vont venir et dire « Ah, je comprends rien, c'est mal expliqué, qu'est-ce que vous faites ?» Et souvent, ces gens-là, c'est des gens dont après vous n'entendez plus jamais parler. Alors que ceux qui ont intégré la discussion sont des gens qui took the ownership of the research, qui ont dit « Ah ça m'intéresse », et ils ont franchi la première barrière qui est de parler aux autres, de dire « j'ai vu que vous avez fait ça » ou « moi j'ai fait ci », etc. Et donc ça, avoir une petite barrière à l'entrée que vous pouvez faire arbitrairement faible, je pense que c'est important pour avoir un phénomène de tri naturel pour des contributeurs et contributrices qui vont rester pendant longtemps dans votre projet. Et enfin, le plus important d'après moi, c'est keep showing up, surtout au début. Il faut mettre du feu dans le foyer. Quand vous êtes le seul au début, tout seul sur votre Discord, il faut avoir une activité et tous les jours revenir au travail parce que si vous ne le faites pas, les autres ne le feront pas non plus. C'est quasiment en tant que mainteneur de ce genre de projet, au-delà de la découverte scientifique, parce que la plupart des découvertes scientifiques dont je vais parler après, moi, je n'ai quasiment pas contribué, votre job principal, c'est la catalyse, c'est-à-dire de continuer à mettre de l'énergie dans le projet. Bon, et ce qui se passe après en pratique, pour moi, c'est qu'au début, vous êtes tout seul. Ça, c'est un peu la carte du savoir que vous essayez d'explorer. Et vous avez des gens qui vous rejoignent, des fois des gens très proches de vous, donc c'est facile de discuter. Et après, des gens qui ne sont pas du tout dans le même domaine, mais c'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir discuter avec eux aussi. Et naturellement, cette carte, elle commence à se populer de manière automatique, c'est-à-dire que les gens vont naturellement aller là où il n'y avait personne et où ils pensent qu'ils peuvent contribuer. Et in fine, vous avez aussi des gens très importants qui sont capables de faire le lien entre deux mondes qui sont potentiellement des fois différents. Et donc, ça, vraiment, c'est mon image mentale d'un projet comme ça, c'est-à-dire que naturellement, chacun va trouver sa place. Il y a des gens qui vont être plus au centre pour essayer de collecter les informations et en faire sens, et vous allez avoir des gens à la frontière qui vont constamment repousser les limites de ce qui était possible. Donc, pour prouver ce résultat, comme je vous l'ai dit, on doit énumérer toutes les machines de Turing, il y en a beaucoup. Et après, on veut des stratégies de preuve automatiques, parce qu'on ne peut pas s'amuser à regarder 180 millions une par une. Et ça, on l'a conceptualisé, on appelle ça des programmes décideurs, c'est-à-dire un programme qui prend une machine de Turing en entrée, qui vous répond soit elle s'arrête, soit elle ne s'arrête pas, soit je ne sais pas. Comme le problème de l'arrêt est indécidable, il n'y a pas de décideur universel. Et tout le but, tout l'enjeu, c'est de créer des décideurs qui sont suffisamment abstraits pour couvrir un large cas du problème de l'arrêt, mais aussi qui sont assez efficaces, parce que si c'est très lent, vous n'allez pas pouvoir les faire tourner à l'échelle. Et enfin, vous allez sûrement rester avec des cas des irréductibles que vous ne pouvez pas résoudre avec des méthodes génériques. Et dans notre cas, il y en avait 13, qu'on a appelé des machines sporadiques, et dont je vais parler après. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un des trucs importants pour un projet comme ça, c'est de pouvoir vérifier les résultats. Et au début, la manière dont on vérifiait les résultats, c'était avec une technique, on va dire, assez classique de reproduction. C'est-à-dire que dès que quelqu'un inventait un programme décideur, il y en a une cinquantaine qui ont été inventés, eh bien, il fallait que quelqu'un d'autre le reproduise avec des résultats qui concordent. Et enfin, on demandait une preuve mathématique écrite en LaTeX, c'est-à-dire un peu formelle. Et souvent, c'était ça le boulot d'étranglement, parce que c'est très facile d'écrire des preuves fausses et c'est très difficile de vérifier qu'elles sont vraies. Donc, la preuve finale, elle comprend 6 décideurs, donc ces algorithmes, dont je ne vais pas nécessairement parler dans les détails, mais vous pouvez voir qu'ils réduisent peu à peu le nombre de machines qui restent à résoudre. Le seul dont je vais parler un peu dans les détails, c'est la boucle infinie, parce que c'est avec ça que j'ai commencé le talk, l'équivalent du while true dans les machines de Turing. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, j'ai juste rajouté un peu de couleur pour voir dans quel état la machine est à chaque fois qu'elle s'exécute. Et ici, on peut voir un pattern, une boucle qui va se répéter pour toujours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la machine revisite la même configuration, bien on est sûr qu'elle ne s'arrêtera jamais. C'est peut-être l'argument le plus simple pour dire qu'une machine ne s'arrête pas. Cet argument, il s'applique en fait quasiment de la même manière à des boucles un peu plus compliquées qui se déplacent dans l'espace. Et vous pouvez voir que bon, ça commence à sentir potentiellement un peu le roussi parce que les patterns qu'on observe peuvent être très compliqués. Donc l'enjeu d'un décideur, c'est d'écrire un algorithme, donc ça c'est celui du papier, et de prouver que l'algorithme est correct, c'est-à-dire que quand le décideur dit la machine ne s'arrête pas, effectivement elle ne s'arrête pas. Cette technique, elle bute quand on a des cas particuliers. Ici on a 13 cas particuliers, et là la technique de la reproduction, c'est pas forcément valable, c'est-à-dire vous pouvez demander à plusieurs personnes de reviewer la preuve, mais généralement c'est là où la difficulté vraiment commence. Ces machines irréductibles, je vais vous en montrer quelques-unes. Donc celle-là qui s'appelle Skelet 17. Skelet parce qu'en 2003, il y a quelqu'un avec un pseudonyme, Skelet, qui s'appelle Georgi Georgiev, qui est un professeur à l'université de Sofia en Bulgarie. À cette époque-là, il fait un job administratif qui l'ennuie un peu. Et la nuit, il s'intéresse au problème Busy Beaver. Et donc pendant 2 ans, il va faire un programme qui, in fine, sera 6000 lignes de Pascal, qui explore toutes les machines de Turing et qui finit avec une liste de 43 machines qu'il n'a pas pu résoudre. Ça, c'en est l'une d'elles. Et donc, bien sûr, vérifier son code, ça aurait été très, très dur parce qu'il n'y avait pas de commentaires. Et puis, de manière générale, il y a beaucoup de possibilités pour des bugs et on en a trouvé. Mais ce qui est rigolo, c'est que notre liste de machines irréductibles, c'est une sous-liste de la sienne. Donc, il avait quand même fait un travail exceptionnel. Ici, cette machine-là, pour laquelle il a fallu écrire un papier séparé pour expliquer comment elle marche, elle implémente un truc qui s'appelle le code de Gray, donc une manière de compter en binaire particulière, mais sous 6 niveaux d'obfuscation. C'est-à-dire que pour mettre le doigt sur le code de Gray, il faut enlever beaucoup d'encoding. Celle-ci, c'est une machine qui compte en base Fibonacci. Donc il y a un théorème qui nous dit que n'importe quel nombre, on peut l'écrire comme la somme de 2 termes de la suite de Fibonacci. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle le fait pas qu'une seule fois, elle le fait 2 fois. Sur la partie droite du tape, elle l'implémente d'une certaine manière, et sur la partie gauche, elle l'implémente d'une autre manière. Et ici, l'enjeu, c'est qu'il faut montrer que ces deux manières sont toujours synchrones, c'est-à-dire qu'elles vont jamais se désynchroniser, et c'est ça qui fait que la machine ne s'arrête pas. Un monstre, donc cette machine-là, Skelet 1, elle boucle, c'est juste une boucle comme on a vu tout à l'heure, sauf qu'elle boucle après 10 puissance 51 étapes et que la période de la boucle c'est 10 puissance 9. Donc ça, c'est sûr que notre algorithme que j'ai montré à l'écran tout à l'heure, il n'aurait pas pu le trouver parce qu'on ne va pas pouvoir attendre 10 puissance 51 steps afin de détecter le résultat. Et donc il faut faire une preuve spéciale rien que pour ce cas-là. Le rêve, en fait, à cette époque, et que j'avais formulé sur le projet, c'était de dire, dans l'idéal, on voudrait utiliser des assistants de preuve. Les assistants de preuve sont des logiciels qui sont capables de vérifier des preuves pour vous. C'est-à-dire, vous pouvez l'imaginer comme un ami brillant en qui vous faites confiance, et il va lire la preuve pas à pas, et il verra si vous avez fait une erreur ou pas. Et donc, Les assistants de preuve, ce n'est pas nouveau. L'assistant de preuve Coq, maintenant qui s'appelle Rock, qu'on a utilisé in fine, il a été développé à INRIA depuis les années 90. Mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, par exemple, Lynn, c'est quelque chose dont on peut entendre pas mal parler, ou encore, avant ça, Isabelle. Et moi, j'avais écrit ça sur le site, c'est que bon, ben, j'encourage les gens à les utiliser, mais moi déjà, je ne sais pas les utiliser. Et ensuite, c'est dur, je sais que c'est dur. Et pourquoi, en fait, j'en parle dès ce moment-là, c'est que je sais que c'est le standard le plus élevé pour atteindre un consensus scientifique. C'est que si vous voulez publier un papier, vous dites « Regardez, j'ai analysé 180 millions de Turing machines, déjà, j'en ai pas oublié, et puis ensuite, voilà, faites-moi confiance, enfin, lisez la preuve. » C'est le genre de papier qui est très très dur à vérifier. Et donc, ça serait quasiment impossible de publier ce résultat ou d'obtenir un consensus scientifique que le résultat est vrai. Et donc, c'est là la beauté de l'aspect collaboratif. C'est que moi, ce n'était pas du tout dans mon champ de compétences. Mais dès le début, dès 2022, on a des collaborateurs qui connaissent ces systèmes et qui commencent à les utiliser. Là, Nathan Fenner, il utilise Daphne, qui est un assistant de preuve dont je n'ai pas parlé, mais qui commence à vérifier des résultats avec ça. Maya, en 2023, elle pousse la chose un peu plus loin et elle commence à implémenter les décideurs en coq. C'est-à-dire que l'algorithme que j'ai montré tout à l'heure à l'écran, elle l'écrit dans ce langage formel et elle montre qu'il est correct. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper. Elle crée ce projet qui s'appelle BusyCoq, et elle prouve 12 des 13 machines sporadiques. La machine Skelet 17, c'était trop compliqué, elle la touche pas à ce moment-là. Et en 2024, il se passe un truc assez miraculeux, c'est qu'il y a un utilisateur anonyme, MXDYS, qui se manifeste sur nos canaux de communication, qui nous dit « bon ben voilà, j'ai écrit la preuve en coq ». Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé tout ce qu'on a fait pendant 2 ans, et cette personne a implémenté la chose en coq et souvent a amélioré des choses qu'il aurait fallu améliorer de toute façon pour arriver au résultat. La chose qui m'a particulièrement impressionné, c'est que la personne a implémenté l'algorithme qui énumère les machines de Turing. Et ça, je pensais que ça ne serait jamais possible parce que énumérer 180 millions d'objets, si le langage n'est pas très performant, bon, bah, c'est juste peine perdue. Et ça m'a prouvé donc le contraire, c'est que les assistants de preuve comme Rock à l'heure actuelle, ils sont capables de travailler sur des problèmes aussi énormes. Elle prouve aussi le non-arrêt de la 13e machine sporadique, il faut à peu près 10 000 lignes de code pour juste cette preuve, et comme ça elle en fait finit le projet. Cette preuve elle s'appelle CoqBB5, et là si vous voulez, c'est la première fois qu'on entend parler de MXDYS. Et c'est là aussi le point que j'avais sur l'écran tout à l'heure, qui est de maximiser les canaux de communication. Vous allez avoir des gens qui veulent parler sur le chat, vous allez avoir des gens qui ne parlent que par email, qui m'envoient des emails de temps en temps avec des résultats, vous allez avoir des gens qui ne parlent que sur le wiki. Donc voilà, pour vraiment atteindre toute cette diversité, ici c'est notre forum qui a fonctionné. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de MXDYS. Quelque chose d'assez triste, c'est que Allen Brady, qui avait dit qu'on ne pourrait jamais prouver le cinquième nombre de Beaver, il est décédé 4 jours avant, à 90 ans. Donc on n'a jamais pu lui annoncer cette nouvelle. Voilà à quoi ça ressemble. Donc l'avantage d'un système comme Rock, c'est que si vous faites confiance à Rock, c'est-à-dire vous faites confiance que Rock est fort pour vérifier les preuves, la seule chose que vous avez besoin de vérifier sont juste les énoncés du théorème. Et après, si Rock vous dit que la preuve est correcte, eh bien, vous avez cette sécurité. L'avantage, c'est que ce n'est pas très dur à lire. Vous n'avez pas besoin d'un niveau d'expertise énorme pour lire. Ici, ce statement, bon, bah, on définit la valeur BB5, et ici, on fonctionne avec une borne inférieure et une borne supérieure. Ce code qui a été écrit principalement par une personne, il fait 37 000 lignes, et il a 957 lem. Donc imaginez si vous envoyez à un journal une preuve avec 957 lem, c'est peu probable que vous obteniez une réponse un jour. Et ici, on a vraiment le cœur de la preuve. Vous avez la borne inférieure qui est facile. C'est-à-dire qu'il suffit de montrer la machine de Marksen et Buntrock pour montrer que BB5, c'est au moins égal à 47 millions. La partie qui est dure, c'est la borne supérieure. C'est-à-dire que c'est là où il faut énumérer toutes les machines, appeler les décideurs et régler les machines sporadiques. Cette preuve, plus que des mathématiques, c'est une preuve de vérification formelle de logiciel. Parce que si vous voulez, on prouve que les algorithmes sont corrects, et ça donne l'avantage qu'on peut les utiliser avec confiance dans la preuve. C'est-à-dire que quand l'algorithme répond quelque chose, on a un certificat qu'il a raison, enfin, qu'il n'est pas en train de se tromper. Et donc, ça transforme ce projet comme un projet plutôt de développement logiciel qu'un projet mathématique. Au début, ça mettait 13 heures à compiler, mais avec l'aide de Yannick Forster présent dans la salle, maintenant ça met à peu près 36 minutes sur cet ordinateur-là. Et en fait, ça pourrait aller à n'importe quel, enfin, ça pourrait aller même en 2 minutes si on voulait, parce qu'il a réussi à paralléliser cette preuve. Donc, votre facteur limitant, c'est le nombre de cœurs sur votre machine et votre mémoire globalement. Rock, il est capable de vous dire quels axiomes vous avez utilisés. C'est-à-dire que je pourrais utiliser comme axiome BB5 égale 47 millions, etc., pour essayer de vous arnaquer. Mais Rock est capable de vous dire exactement ce que vous avez utilisé. Ici, le seul axiome qui est utilisé, c'est un axiome, on se demande même pourquoi c'est un axiome, qui nous dit que deux fonctions sont égales si elles sont égales partout. Bon, il y a des raisons pour lesquelles c'est un axiome, mais il pourrait ne pas être utilisé, simplement ça rendrait la preuve beaucoup plus laide. Alors voilà. Après CogBB5, on a une espèce de zoo, une espèce de classification des machines de Turing à 5 états. Donc ici, je vous en montre quelques-unes. Vous en avez beaucoup qui font des choses un peu ennuyeuses, comme des boucles ou cette espèce de ping-pong pour toujours, de droite à gauche. Vous en avez qui commencent à faire des choses marrantes, qui sont des compteurs. Ça, en gros, ça compte dans une base donnée. Et je pense que c'est toujours un problème ouvert de pouvoir savoir exactement de quoi sont capables les machines à 5 états dans ce domaine-là. Vous avez des compteurs en base 2, en base 3, mais aussi dans des bases un petit peu bizarres, comme la base 3,5 ou des choses comme ça. Ou la base Fibonacci dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez des motifs un peu fractales aussi, enfin autoréférents. Donc ici, on voit qu'il faudrait peut-être faire une preuve par induction pour essayer de résoudre cette machine. Et ou d'autres choses qu'on peut même pas trop catégoriser. Enfin, des formes que moi, je n'avais jamais vues avant, par exemple. Et donc, si on revient à l'intuition derrière Busy Beaver, la question, c'était quel est le plus petit programme pour lequel on soit incapable de dire s'il s'arrête ou pas. Ce programme, on pense qu'on l'a trouvé. Il s'appelle Anti-Hydra, c'est une machine de Turing à 6 états. Cette machine, elle est là, donc c'est quelque chose qu'on pourrait écrire sur un ticket de métro, et en fait, la conjecture à laquelle elle correspond, c'est la conjecture suivante, une conjecture qui ressemble un peu à un monstre des mathématiques qui s'appelle la conjecture de Collatz, qui nous dit que vous itérez la fonction suivante, donc 3x sur 2 si le nombre est pair, 3x moins 1 sur 2 si le nombre est impair, et la machine s'arrête si et seulement si cette conjecture est fausse, c'est-à-dire qu'on n'obtient jamais deux fois plus d'itérés impairs que d'itérés pairs. Si vous jouez un peu avec ça, vous vous rendez compte que c'est un peu comme un générateur de nombres aléatoires, c'est du chaos, et c'est très dur de pouvoir essayer de prouver quoi que ce soit. Vous pouvez faire un modèle probabilistique, on sait que les chances que cette machine s'arrête, si le modèle probabilistique est vrai, on les estime à ce nombre-là, donc c'est tout petit. John Conway, il avait un nom pour ça en mélangeant probability et obvious, il dit que c'est provious. Proviously, cette machine s'arrête, mais on est incapable de le prouver. Pardon, proviously, elle ne s'arrête pas. On a inventé un mot pour ça, on les appelle des cryptides, qui sont des machines voilà, où personne ne sait si elles ne s'arrêtent ou pas, et ce n'est pas la seule, on en a une dizaine à l'heure actuelle. Donc, on peut se poser la question, donc est-ce qu'on va réussir à trouver BB6? Là, je viens de vous donner une réponse qui a l'air très pessimiste, c'est que pour trouver BB6, il faudrait résoudre la conjecture précédente. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que cette machine ici, qui a été découverte il y a peu, elle s'arrête après deux triple arrow five steps. Bon, ça déjà, comprendre à quel point ce nombre est grand, ça donne mal à la tête, mais on va essayer. Deux triple arrow, c'est deux double arrow, deux double arrow, deux double arrow, sachant que double arrow, c'est une opération qui s'appelle la tétration, c'est l'exponentiation itérée. Donc A double arrow B, c'est A puissance A puissance A puissance A, B fois. Donc ici, si on développe un peu, ce nombre-là, c'est égal à ce nombre-là, et donc ici, il faudrait faire 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 65 000 fois, et une fois qu'on a calculé ce nombre, faire 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2, ce nombre-là de fois qui est juste énorme. Alors, comment est-ce qu'on trouve des machines comme ça? En réalité, ce n'est pas si dur parce que dès que vous pouvez faire des boucles imbriquées, bah vous pouvez répéter, faire de l'itération de l'exponentiation et de l'itération de ceci. Mais elles ont été trouvées aussi par hasard. C'est imaginer que vous êtes dans la jungle à la recherche de créatures étranges. Et donc, pour résoudre BB6, il faut qu'on résolve Anti-Hadra et on sait que c'est au moins aussi grand que ce nombre. Donc, il y a très certainement des machines qui s'arrêtent, mais pour lesquelles il va falloir avoir une analyse mathématique très poussée pour réussir à savoir après combien de temps. Donc, voilà. Prédiction, BB6 ne sera jamais prouvé. Mais ça ne décourage pas les gens de BB Challenge. Là, c'est un graphe dans le temps, c'est logarithmique ici, donc à chaque fois, ça divise par deux. À l'heure actuelle, il y a à peu près 1600 machines qui restent à déterminer si elles s'arrêtent ou pas. Chaque mois, on poste sur notre wiki Timber, qui est un newsletter où on dit ce qui a été trouvé dans ce domaine. Donc, je voudrais sincèrement remercier les gens qui ont participé à cette recherche. Donc, 19 personnes dont les découvertes ont fini dans la preuve finale. Vous voyez, il y en a au moins 3 qui sont anonymes. Beaucoup d'autres qui ont participé à la conversation de manière active, et aussi des gens qui nous ont beaucoup aidés à parler de notre projet. Donc, je vous remercie sincèrement pour votre attention. Après un an d'écriture, le papier sur cette découverte est enfin sur Archive. Donc, si ça vous intéresse, il est là. Et en termes de vulgarisation, le magazine américain Quanta Magazine a fait un très bon article que je vous recommande aussi. Donc, je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.